que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, vous savez, un accident de circulation peut survenir occasionnant des morts et blessés graves. Généralement, les témoins paniquent, ils sont dépassés par l'événement. Pourtant, il existe des gestes de secours pour sauver des vies. Devant un cas de malaise cardiaque, étouffement, saignement et autres, il est indispensable de maîtriser les réflexes de premier secours. Alors, quels sont ces gestes? On en parle avec Dominique Ouandou, formateur à la Croix-Rouge du Congo. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Alors, vous êtes secouriste. Dites-nous, devant un cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire?
En cas d'accident, nous remarquons qu'il y a d'abord l'afflux de blessés. Alors, nous, ici, à la Croix-Rouge, nous voyons comment faire face à l'afflux de blessés. Mmh. En premier lieu, il faut sécuriser, vous sécurisez d'abord, et puis vous balisez la route.
Vous sécurisez?
Vous vous sécurisez, il faut voir est-ce que le véhicule est bien en arrêt, en état d'arrêt, ou vous arrêtez le moteur, vous mettez le... vous calez le pinet pour que le véhicule ne puisse pas aller, ou vous entrez là-dedans, vous mettez le véhicule en première ou deuxième vitesse pour que le véhicule ne puisse pas se déplacer. Maintenant, vous, avant de faire vos gestes...
Mais on dit que quand déjà deux véhicules, par exemple, entrent en collision, est-ce qu'ils peuvent encore bouger?
Si, le véhicule avant peut aussi bouger. Le véhicule en arrière, ça dépend maintenant de la place où se trouve le véhicule.
Donc il faut
arrêter le moteur. Arrêter le moteur, c'est ce que nous, les secouristes, nous devons nous sécuriser. Quand on dit, vous devez d'abord vous sécuriser. Mm-hmm. Oui, vous arrêtez le moteur. Et après... vous balisez la route, c'est-à-dire, vous mettez, il y a derrière le véhicule un triangle là, qu'on parle de triangle de signalisation,
oui.
Et qu'on demande à tout conducteur d'en avoir dans sa voiture. Et s'il n'y en a pas, bon, vous prenez deux témoins ou vous allez laisser en sens opposé.
Donc les triangles, c'est pour signaler aux autres conducteurs,
faites attention, il y a accident. Il ne faut pas vous approcher là-bas.
Et le triangle, il faut le placer à quelle
À 20 mètres.
À 20 mètres.
À 20 mètres.
Ok.
Vous placez votre triangle. Si vous n'avez pas ça, vous mettez maintenant deux témoins de sens opposé.
Deux témoins, c'est-à-dire
vous prenez quelqu'un que vous avez trouvé sur place, qui va vous aider. Et vous le mettez avant le véhicule qui s'est accidenté, et puis après, là où l'autre véhicule arrive. Mm-hmm. Donc, vous mettez devant le véhicule un témoin, et après le véhicule aussi, un témoin.
Quel est le rôle de ces témoins-là?
Ces témoins, c'est pour signaler le véhicule qui vient de sens opposé, pour leur dire halte, attention, là vous partez, il y a un cas d'accident.
Mais le triangle le fait déjà.
Le triangle le fait, mais si vous n'avez pas le triangle, vous mettez maintenant ces témoins.
Deux témoins.
Oui, deux témoins. Okay. Et si vous avez le triangle, vous déposez le triangle toujours à 20 mètres. Ou quand
départ et d'autre.
Quand le conducteur viendront, ils vont voir que non, là-bas il y a accident, il faut ralentir.
Oui.
Bon, le témoin, comme je vous disais, lui maintenant va faire passer le véhicule de l'autre côté.
Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'occuper des accidentés, de ceux qui sont blessés, au lieu de faire tout cela?
Avant de faire ça, il faut d'abord, il faut se sécuriser vous-même, et puis baliser la route dans ce sens-là. Sinon, vous n'allez pas travailler.
Oui.
C'est pourquoi nous formons les secouristes dans ce sens-là. Ah bon. Deuxièmement, vous balisez la route, comme j'ai dit, à l'aide des triangles ou deux personnes de sens opposé que vous allez mettre et de montrer la circulation là où le véhicule peut passer.
Ouais.
Troisièmement, vous retirez immédiatement le victime de la situation critique. Là, c'est en troisième position.
Troisième position, vous commencez à retirer les
victimes. Vous commencez à retirer les victimes critiques et le mettre à l'abri. Vous le retirez. Quand vous le retirez, il faut le mettre quelque part. Là, maintenant, vous allez. Nous faisons le triage des cas.
Mais il peut arriver, par exemple, que le conducteur, le chauffeur est coincé. Le choc était tellement dur qu'il est, il est coincé, ses jambes sont restées coincées. Comment arriver à les tirer de là?
Ah, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut arrêter le moteur. Quand vous allez vous sécuriser d'abord.
Non, vous savez même plus où arrêter le moteur parce que c'est la voiture est tellement endommagée.
Ah, mais il faut voir, c'est nous appelons l'examen avant de poser tout geste. Il faut évaluer la situation. Mmh. Vous allez voir si le chauffeur est là, bloqué, le véhicule est en état de état critique. Maintenant, là, vous allez maintenant chercher comment faire sortir la victime qui est le chauffeur.
Mmh. Mmh. Donc, il faut commencer par le chauffeur.
Oui, vous commencez par le chauffeur. Mais s'il est déjà décédé,
oui.
Nous avons une ligne là que nous suivons. Les décédés, Nous les déplaçons ou nous les évacuons après. On s'occupe de personnes qu'on peut sauver.
Mm-hmm.
Si les chauffeurs,
les
blessés graves, si le chauffeur est décédé, donc il reste là. Alors nous occupons de personnes que nous pouvons sauver.
Mm-hmm.
Là, maintenant là-bas. Quand vous faites le triangle et vous faites le triage des cas et le mettre par groupe, c'est-à-dire cas par cas. Et maintenant, nous allons poser les gestes qui sauvent. C'est ce que vous avez parlé là des gestes qui sauvent.
Donc, vous prenez ceux qui sont morts, vous les mettez d'un côté, ceux qui
les
sont...
Les morts, non, encore.
Pas encore.
Pas encore.
Les blessés graves, vous les regroupez.
Oui.
Les blessés légers, vous les mettez aussi de l'autre côté.
Oui,
pas les traumatisés aussi, ceux qui n'ont eu apparemment aucun choc.
Oui, comment nous faisons le triage?
Oui,
comment nous faisons le triage? Il y a d'abord les cas d'extrême urgence.
Oui.
Dans des cas d'extrême urgence, nous plaçons d'abord les victimes inconscientes au état de choc, ceux qui ont perdu connaissance. En deuxième lieu, les hémorragies où il y a arrêt difficile, donc arrêt impossible. Nous les classons là-bas, dans l'extrême urgence. Abolition respiratoire, ceux qui ont des problèmes de la respiration. Et puis des bébés, vous voyez, ce sont des sujets... fragile.
Mm-hmm.
Là, ce sont les cas de première, d'extrême urgence.
Oui.
Alors, deuxième groupe, nous avons maintenant en première urgence. En première urgence, nous avons les blessés ou fracturés graves, ou des fois on appelle le polyfracturé.
Mm-hmm.
Et puis, il y a les brûlés graves, c'est dans ces premiers secours. En première urgence, et en deuxième urgence, là maintenant il y a les divers traumatismes que vous avez parlé là.
Mm-hmm.
Et il y a aussi les personnes non blessées. Parce que nous en sécurisme on dit il ne faut pas négliger les traumatisés. Et ils peuvent avoir des cas graves par rapport au cas que vous voyez à l'œil nu.
Mm-hmm.
Il faut les consoler, il faut les réconforter.
Peut-être qu'il a eu une hémorragie interne.
Interne que vous ne voyez pas.
Vous ne voyez pas, oui.
Le cas de l'émotion, il peut aussi faire l'état de choc. Donc, il ne faut pas les négliger.
Mm-hmm.
C'est pourquoi quand il y a accident, il ne faut pas laisser partir les accidentés comme ça.
Il faut les
sans prendre soin d'eux. Oui, il faut les garder. C'est pourquoi nous le mettons en deuxième urgence.
Voilà, vous avez des questions, des réactions par rapport à cela. Composez le 081-890-63-94.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-63-94 et envoyez vos SMS au 081-070-20-50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Voilà, vous avez dit tout à l'heure, en récapitulant, vous avez dit pour les cas extrême urgence, c'est des cas de perte de connaissances, hémorragie grave et des bébés. Hein, les bébés parce qu'ils sont fragiles. l'autre donc première urgence, vous avez parlé des blessés, des brûlés graves, et deuxième urgence, les traumatisés et les personnes qui n'ont pas de blessures, mais il faut toujours les garder. Alors, après avoir procédé à ces triages, quelle est l'étape suivante?
Il y a maintenant les cas de désespérés, comme vous avez parlé de chauffeur, le chauffeur qui est bloqué dans son véhicule, et s'il y a des morts, que vous allez maintenant vous occuper de morts. Donc ce sont des cas désespérés que nous occupons après pour l'évacuation à l'hôpital.
Voilà, et maintenant pour ceux qui sont blessés, par exemple, il y a saignement, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter, par exemple, cela? Voilà, composez à le 081-869-6034 pour participer. Oui, allez-y.
Quand il y a saignement, nous parlons de l'hémorragie.
Hémorragie, oui.
De l'hémorragie. Bon, l'hémorragie, nous, en sécurisme, on voit l'hémorragie, c'est un écoulement du sang en dehors des vaisseaux sanguins, suite à des lésions, comme nous avons dit, en cas d'accident. Mais il y a des types d'hémorragie. Il y a des types d'hémorragie. Nous avons, en sécurisme, nous faisons sortir trois types.
Oui.
Nous avons hémorragie externe, qu'on peut voir. Nous avons l'hémorragie interne, qui est en dedans. Et nous avons l'hémorragie extériorisée, c'est-à-dire l'hémorragie où le sang sort dans des voies naturelles. Bouche, nez.
Le nez.
Le nez, oui. Les yeux. Oui. Là, maintenant, vous essayez de classer quelles sont les hémorragies que vous avez remarquées. Est-ce que c'est externe où vous voyez? Ou c'est interne, ou c'est extériorisé, qui sort dans des voies naturelles. Là-bas, maintenant, comment vous allez savoir qu'il y a l'hémorragie externe? Vous verrez le sang qui coule de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le sang qui coule, vous remarquez?
Là, c'est extériorisé.
Non, là, c'est hémorragie externe. Oui. Vous remarquez que le sang vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps. Vous allez voir donc la plaie. Quand nous parlons de l'hémorragie interne, là le sang coule dans l'organisme.
Et là on ne peut pas voir. Hein, c'est difficile
on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas.
Alors, devant ces différents cas, par exemple, pour arrêter cette hémorragie-là, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Mais avant de continuer, nous allons recevoir Romain. Les auditeurs vous suivent de partout à travers la République.
Oui.
Romain nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Romain.
Oui, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de secouristes qui doivent intervenir.
Oui.
Et là aussi, le monsieur là de la Croix Rouge a parlé de tout le monde qui doit intervenir en cas d'accident. Est-ce que je voulais savoir, les secouristes se promènent-ils avec des gants parce qu'ils auront manipulé le sang?
Oui.
Et alors, il n'y a pas longtemps qu'on a célébré la journée contre le sida. Comment est-ce qu'ils vont faire tout ça? Au cas où ils n'ont pas des gants, tout ça.
Merci. Les secouristes, c'est qui? C'est une personne qui s'est formée en secourisme, qui connaît le geste qui sauve. C'est-à-dire, il travaille avec les moyens de bord. Bon, les gants, si vous avez une trousse, parce que nous avons des trousses de secours, mais si on doit nous donner des matériels, combien de matériels, quel est l'équipement que vous allez marcher avec ça? Donc nous travaillons avec les moyens de bord, et des fois, dans notre trousse, il y a des gants. Mais quand les problèmes arrivent, surtout on ne s'attend pas qu'il y aura tel problème, tel cas, mais vous êtes là, vous devez faire un moyen de bord. C'est pourquoi nous apprenons aux secouristes de se prévenir aussi.
Alors, mais tout le monde peut être secouriste. Devant un accident, vous n'avez pas de gants. Il a évoqué cette question, le sang qui coule. On ne sait pas, peut-être que ça peut être un sang infecté. Alors, il faut craindre aussi d'être contaminé par le sida. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme moyen de bord?
Oui, il y a des gestes, c'est pourquoi nous allons parler. Comment maintenant vous allez traiter ces cas-là.
Voilà. Donc, oui, avant d'y arriver, nous allons. Il y a Emouk Mabrok qui nous appelle de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Emouk Mabrok, absolument, comme vous venez en train de le dire. Je voudrais un peu savoir si le propriétaire du véhicule peut le réclamer en cas d'accident et qu'on l'a brûlé. Est-ce qu'il y a moyen?
Pardon, prendre la question?
Bon, j'ai dit ceci, il y a eu un accident et que les gens qui étaient aux alentours ont brûlé le véhicule. Est-ce qu'il y a moyen que le propriétaire puisse le réclamer?
Oui, là, c'est le problème de la police. Nous nous occupons de victimes et de biens de la victime. Et nous occupons aussi de biens, de protéger les biens de tout le monde. Mais quand la population incendie le véhicule, là c'est la police. C'est la police qui s'en occupe.
Qui s'en occupe. Voilà, donc, alors, vous parlez des gestes. Si, par exemple, vous disiez devant un accident, vous n'avez pas de gants, est-ce qu'on peut utiliser à la place, je sais pas moi, des sachets?
Oh oui, à la place, vous utilisez les sachets, comme vous avez dit. Mm-hmm. Et vous devez tout faire que vous ne puissiez pas entrer en contact
avec le sang.
En contact avec le sang. C'est parmi les gestes qui sauvent. C'est pourquoi nous demandons à la couche que nous puissions...
Ça peut être les sachets ou quoi d'autre, un morceau de vêtement.
Le vêtement, ça va faire passer.
Ça va faire passer
Le sachet, c'est mieux. Mm-hmm. Mais c'est pourquoi nous demandons que nous puissions former par un secouriste par famille. Parce que quand nous avons eu des cas ou de familles qui ont perdu les leurs comme ça, par manque de connaissances de gestes qui sauvent.
Vous étiez en train de parler de venons-en à ces gestes en question.
Oui, nous parlions de l'hémorragie.
Oui.
Oui. Alors j'ai dit, il y a l'hémorragie interne. Maintenant, quand le sang coule à l'intérieur de l'organisme, elle est très... ce sang-là, maintenant vous devez remarquer que le sang vient de l'intérieur à l'extérieur.
Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens qui ont une hémorragie interne? Il faut appeler directement l'hôpital, qu'on envoie une ambulance pour dégager, pour les amener à l'hôpital.
C'est pourquoi nous avons parlé de l'extrême urgence.
Oui.
Quand il y a arrêt difficile. Arrêt impossible.
Mm-hmm.
Là, d'office, il faut évacuer. Mais il y a des gestes là, quand nous allons arriver à la colline d'Atenir, qu'est-ce que vous devez faire en cas de comment faire l'arrêt de l'hémorragie?
Allons-y directement, comment?
Oui.
Comment le faire? Vous avez des questions, continuez à nous appeler, réagissez, participez en nous appelant au 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Voilà, Dominique Ouandou, allez-y, comment arrêter une hémorragie?
Oui, José.
C'est jeudi.
Ah, joli.
Jeudi. Voilà.
Jeudi?
Oui.
Oui. Et là, nous parlons de conduite à tenir.
Oui.
Conduite à tenir, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a maintenant, en premier lieu, il y a pression directe. Pression directe, vous allez faire une pression juste là où il y a, là où vous avez remarqué qu'il y a hémorragie.
La pression sur la veine.
Sur la veine, sur la peau, là où il y a.
Là où le sang est en train de couler.
Là où le sang est en train de couler.
Ouais.
Là, nous parlons de pression directe.
Ah, vous faites une pression à l'aide de
vous
quoi?
Vous étouffez la plaie.
Oui.
Et à l'aide de compresses. À l'aide de nous avons aussi de coussins hémostatiques que nous présentons. C'est comme une planche que nous coupons, on met là-bas sur le corps pour que ça puisse arrêter l'hémorragie.
Et si vous n'avez pas tout ça, des compresses, papier mouchoir, vous pouvez utiliser le papier mouchoir.
Ah, mais il faut pas que ça puisse être imbibé. Il faut vraiment prendre compresses, papier mouchoir en grande quantité peut-être,
oui.
Pour que ça puisse pas passer le sang.
Ça peut être un morceau de...
Et puis vous appuyez avec votre pouce, pousser la main.
Vous appuyez très fort.
Vous appuyez très fort sur la plaie, et là où vous voyez que le sang est en train de sortir.
Donc ça va arrêter carrément le...
Oui, ça arrête parce que... Oui, c'est une technique parce que nous appelons pression directe.
Oui, la pression
directe. Donc c'est sur la plaie.
Oui. Quelles sont les autres techniques?
Et il y a encore, nous parlons encore de pression indirecte.
Comment le faire?
Pression indirecte, il y a 5 points.
Mm-hmm.
Hein, 5 points. Et derrière la tempe, ici au cou, il y a une veine qui est passée par ici,
mm-hmm.
où vous allez arrêter.
À la nuque?
À la nuque.
Oui.
Quand le sang veut passer au niveau de la tête, vous allez arrêter, nous appelons au tempe, ou bien au cou, et vous allez arrêter premier point, et puis derrière le clavicule aussi,
mm-hmm.
là c'est le deuxième point, et puis au niveau des bras, là c'est le troisième, et puis plus de laine, là-bas, mm-hmm. vous arrêtez, nous appelons pression toujours indirecte, et puis au niveau des cuisses, donc vous arrêtez, pour que l'hémorragie ne continue pas à sortir.
Alors, voilà. Après avoir exercé cette pression, maintenant, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui a perdu connaissance. Comment le ramener, comment le réanimer?
Ah, là maintenant, quand la personne perd conscience, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une technique que nous appelons la position de sécurité. Vous le mettez en position de sécurité.
C'est quelle position il faut le
poser? Position de sécurité ou position latérale de sécurité. Vous mettez votre main, paume de main, au niveau des joues,
mm-hmm.
et la victime posée au niveau ventral.
Vous la couchez sur le ventre.
Sur le ventre.
Oui.
Et puis, une jambe qui va caler l'autre. Et cette position-là, nous... Parlons de la position latérale de sécurité.
Et ça, cette position va permettre à cette la personne position, de reprendre connaissance?
Oui, cette position, une fois que la personne reprenne connaissance, vous pouvez maintenant le mettre à la position où c'est mis assise.
Mmh. Donc vous la couchez sur le ventre.
Sur le ventre.
Et vous mettez votre main sur la joue.
Sur la joue.
Et vous surélevez un peu la tête. Il faut surélever la tête.
C'est parce que la joue sera posée sur...
Sur votre main.
Sur la main. Et le voie, les voies respiratoires, c'est de dégager.
Oui, oui. Ah, ça permet de dégager les voies respiratoires et la personne...
Effectivement. Va... Effectivement.
Voilà, donc c'est ça des gestes
qu'on... Là, nous appelons PLS.
PLS. Hein.
Position latérale de sécurité.
De sécurité. Alors, Philippe Roger nous écrit depuis Kinshasa. Il dit, lorsqu'une personne saigne abondamment et subitement, quels sont les gestes à faire?
Abondamment et subitement.
Ouais.
Mais j'ai parlé de pression.
Il faut exercer la pression.
Pression directe,
oui.
Ou pression indirecte.
Mmh. À l'aide des compresses.
Et des compresses ça, avec votre pouce.
Votre pouce, vous posez sur...
Vous posez sur la plaie. Là, nous parlons de pression directe.
Là où le sang coule.
Là où le sang
et il faut
coule.
Poser pendant combien de temps?
Jusqu'au moment où le sang ne va plus couler.
Et là, vous enlevez.
Vous enlevez. Mais le temps où vous partez à l'hôpital, parce que nous parlons aussi de l'hôpital le plus proche.
Mmh.
Au moment de l'évacuation, vous mmh. contrôlez si le sang continue à couler.
Voilà. Il y a un autre auditeur qui nous écrit, il dit, ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui piquent des crises cardiaques. En cas de malaise cardiaque, quels sont les premiers gestes?
En cas de malaise cardiaque, nous parlons de la respiration artificielle. La respiration artificielle, c'est un mouvement de l'expiration et de l'inspiration. Bon. Et la respiration artificielle est un mouvement qui consiste à rétablir le souffle chez une victime de manière mécanique.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, nous, on... D'abord, si la personne perd connaissance, perd la respiration,
mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des méthodes bouche à bouche.
Oui.
Oui, méthode bouche à bouche. Vous prenez votre bouche,
oui.
que vous mettez à la bouche de la victime, et vous soufflez.
Soufflez.
L'air. D'abord, vous prenez l'air et vous soufflez.
Vous soufflez dedans.
Oui, dans sa poitrine, par la bouche,
mm-hmm.
et vous fermez le nez.
Son nez ou le vôtre.
Vous fermez le nez de la victime.
De la victime. Oui.
Pour que l'air là que vous avez aspiré, que vous allez enfoncer dans la poitrine de la victime, puisse aller directement au niveau de la poitrine. Et vous regardez si la poitrine fait le mouvement. Vous soufflez et vous lâchez. Vous soufflez, vous lâchez, vous allez regarder si la poitrine fait le mouvement, et vous continuez 1, 2, 3, 4, vous allez remarquer que la personne va reprendre. Alors, si il y a maintenant problème de l'arrêt cardiaque, comme l'ami vient de demander, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous allez maintenant appuyer vos mains au niveau du thorax, où vous massez 1, 2, 3, 4, 5, vous vous reposez. 1, 2, 3, 4, 5, vous vous reposez. Vous regardez toujours le rythme de...
Tout en soufflant sur la...
soufflant, si la victime a perdu connaissance. Là, maintenant, il y a deux cas.
Oui.
Il y a maintenant, quand il y a problème de... Un manque de la respiration, vous allez appliquer maintenant la respiration artificielle, vous appliquez encore le massage cardiaque externe.
Voilà, c'est tellement intéressant qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui, le temps nous fait défaut, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dominique Ouandou, nous rappelons que vous êtes formateur à la Croix-Rouge du Congo. On va y revenir une autre fois pour parler de tous ces gestes, c'est quand même important de connaître tout ça. Merci et bon début de week-end.
Merci.
Koba atali kaboboto kasi yamba moto te ondako ya ye yako